tant qu'il y aura des femmes, avec Lydia Ketty. Votre rendez-vous du jeudi sur Aligre FM 93.1. Bonsoir. Bienvenue à l'émission Tant qu'il y aura des femmes sur Aligre FM 93.1. Je vous retrouve avec plaisir chaque premier et troisième jeudi de chaque mois. Ce soir, nous recevons l'Europe, les femmes européennes, les femmes battantes. Madame Jocelyne Adrian-Metoul. Madame, bonjour.
Bonjour.
Ce soir, nous recevons également Maria Cornaz-Bassoli.
Bonsoir.
Bonsoir. Mesdames, je suis ravie de vous recevoir. Maria, vous êtes avocate et militante féministe, secrétaire nationale de l'association Choisir la cause des femmes.
Tout à fait.
Que vous avez à nouveau ouvert après le décès de Gisèle Halimi. Jocelyne, alors c'est très long, Jocelyne, ce que vous faites.
Oui.
Vous faites
j'ai plein de trucs.
Oui, j'ai tout mis, mais je n'osais pas oser tout dire. Vous êtes experte pour les droits des femmes à l'international, coprésidente de la commission diplomatique féministe.
Enjeux internationaux et européens, c'est très important.
Et vous êtes aussi, comme vous êtes multitâche, vous êtes aussi présidente honoraire de la CLEF, qui est une association de plusieurs associations, justement.
80 associations.
Et puis, vous avez monté, effectivement, Femmes du Monde et réciproquement.
Absolument.
Et vous allez nous expliquer ce que c'est.
Très bien.
Maria, vous avez organisé le colloque européen sous la clause européenne la plus favorable en 2008.
Oh oui, ça date, effectivement. Enfin, j'ai co-organisé, j'ai participé à l'organisation de ce colloque qui avait eu lieu encore sous la présidence de Gisèle Halimi et dans le cadre de la présidence française de l'Union européenne de 2008. Ça date, mais on porte toujours le
ça
même
date,
projet.
Ça date, mais il faut quand même le souligner.
Oui, oui.
Et vous êtes spécialisée dans la violence faite aux femmes en tant qu'avocate.
C'est une partie de mon activité, effectivement. Je défends beaucoup de femmes victimes de violences à la fois sexistes et sexuelles et violences conjugales.
Très bien. Et Jocelyne, vous êtes directrice du cabinet. Vous avez été directrice, juste pour souligner encore ce que vous faites, du cabinet de la ministre de la Francophonie également.
Il y a quelques temps, oui.
Alors, que fait la présidente de la commission internationale HCE, les enjeux internationaux, l'Europe
Déjà, le HCE, c'est le Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes. C'est une instance qui a été créée par le président de la République en 2013, donc ça fait déjà plus de 10 ans, on a fêté les 10 ans l'année dernière. Ses missions sont d'une part d'être une aide à la décision pour les décideurs, pour le gouvernement, pour les parlementaires, et de faire donc des rapports documentés, de faire des auditions, etc. dans ce sens pour apporter un éclairage très documenté et solide pour cette aide à la décision. Et puis, il a un rôle aussi d'animation du débat public aussi, donc d'interface avec la société civile.
Oui, en fait, il y a beaucoup de choses à faire.
Et pour la diplomatie, pour ce qui concerne ma commission, il y a 5 commissions. La commission internationale, elle est chargée effectivement d'évaluer la politique extérieure de la France, en matière de droits des femmes et d'égalité femmes-hommes.
La politique européenne, en fait,
voilà.
C'est ça ?
Européenne et internationale.
Et internationale.
Voilà.
Donc, Maria, les élections européennes auront lieu du 6 au 9 juin 2024. On va essayer d'informer un petit peu, alors les gens savent ce que c'est que l'Europe, mais savoir exactement quel est le meilleur de l'Europe pour les femmes et qu'ils puissent voter en connaissance de cause. La construction européenne en mai 1950... par les 6 États fondateurs. Alors, il y a des pères fondateurs, mais est-ce qu'il y a des mères fondatrices ?
Non.
Non,
non,
priori, non
justement
non,
pas.
Non. Je ne suis pas une experte de la construction européenne, hein, je vous le dis tout de suite. Mais l'Europe, c'est d'abord une affaire d'hommes. Et justement, tout le projet qui était porté par Gisèle Halimi et que nous portons aujourd'hui, qui est le meilleur de l'Europe pour les femmes, autrement appelée la clause de l'européenne la plus favorisée, c'est de faire une Europe des femmes et une Europe féministe. Et ça va être un des grands enjeux, vous parliez des élections européennes, va être un des grands enjeux de ces élections qui arrivent la semaine prochaine, il faut absolument aller voter.
Absolument.
Et je vais vous dire pourquoi tout de suite, puisque je pense que c'est quand même le point le plus important aujourd'hui, c'est que l'extrême droite et la droite réactionnaire est donnée gagnante un peu dans tous les pays de l'Union européenne, et on le sait. Quand l'extrême droite prend du pouvoir, les droits des femmes reculent.
Dans les femmes, dans les...
Et ça, nous, je vous en parlerai plus longuement, mais on a vraiment pu le constater dans notre travail.
Oui, super. En 1971, Gisèle Halimi s'est associée à Simone de Beauvoir pour fonder donc l'association Choisir la cause des femmes. Et elle disait, il n'y a rien dans le traité de Rome qui concerne les femmes. Seul l'article 119 prescrivait l'égalité des salaires. C'est-à-dire qu'on a commencé à parler des salaires pour les femmes dans ces années, mais sans parler effectivement de protection sociale ou autre, en fait.
Bah, c'était toute l'origine. En évoquant ça, vous évoquez l'origine du projet qu'on porte depuis maintenant plus de 15 ans au sein de Choisir la cause des femmes. C'est-à-dire que Gisèle Halimi, qui était notre fondatrice et notre présidente jusqu'à son décès, dès le début de l'Europe, et en particulier dès 1979, c'est-à-dire au moment où le Parlement européen va être élu pour la première fois au suffrage universel, va se poser la question de en quoi cette Europe politique qui se construit, cette Europe des citoyens, puisqu'on a une élection au suffrage universel, peut être utile, peut bénéficier aux femmes. C'est la question qu'elle se posait au sujet de tout, mais qui est fondamentale. Et c'est amusant que vous me posiez la question, parce que je suis allée fouiller ce week-end dans les vieux journaux de Choisir, et j'ai retrouvé effectivement toute une série. Moi, je pensais qu'il y avait un ou deux journaux de cette époque-là qui posaient cette question-là, mais en fait, je m'aperçois que dès les années 70, presque systématiquement dans tous les journaux de Choisir, il y a des articles sur l'Europe et sur les femmes en Europe. Pourquoi ? Ce que Gisèle va se dire, c'est cette Europe des citoyennes qui se construit, il faut que ça soit une Europe de la sororité. Oui. Et il faut que ça soit une Europe où les avancées des unes bénéficient aux autres.
Aux autres, absolument.
Et c'est tout le principe, je vais en profiter pour présenter en deux mots le projet qu'on porte, c'est tout le principe de la clause de l'européenne la plus favorisée. C'est-à-dire, c'est de dire, visitons les pays européens et regardons quelles sont les lois qui existent déjà en matière de droits des femmes. Alors on a découpé en 5 thèmes qui couvrent à peu près la vie d'une femme, mais c'est les droits sexuels et reproductifs, le droit de la famille, la lutte contre les violences, l'indépendance économique et la place des femmes en politique. Et on est allé visiter les législations des pays européens. Après, je vous dirai comment on a mis à jour, parce qu'on n'a pas seulement visité les législations, mais on est parti à la rencontre des militants
féministes. Oui.
Mais on a visité les législations et on a mis en évidence les lois qui nous paraissaient les plus avancées. Et ce qu'on propose, c'est de dire, mais attendez, en Espagne, elles ont obtenu des avancées considérables. En Suède, en Slovénie, elles avaient déjà depuis longtemps l'IVG dans la Constitution. Enfin, pas tout à fait l'IVG, mais presque.
Fait, oui.
Il faut que ça bénéficie à toutes les Européennes. Voilà le principe très simple et l'idée que Gisèle a eue dès 79 au moment où cette construction européenne devient beaucoup plus démocratique.
Et vous avez décidé d'actualiser à nouveau ce projet. Combien de pays avez-vous visité en fait ?
Alors nous, en 2008, on a fait une première étude comparée qui a donné lieu à la publication d'un premier livre aux éditions des femmes qui s'appelait « La clause de l'européenne la plus favorisée » et au colloque que vous évoquiez tout à l'heure. En 2008, le travail qui avait été fait, c'était surtout un travail de recherche, de se plonger dans les livres de droit, etc. Et puis, après le décès de Gisèle, on a pensé qu'il était temps de mettre à jour ce travail puisque quand même plus de 15 ans s'étaient écoulés et que les législations qu'on avait mises en avant, elles avaient probablement évolué. Entre-temps, il y a eu MeToo, il y a eu quand même beaucoup de choses. Il y a eu le Covid, il y a eu quand même une pandémie mondiale, beaucoup de choses qui ont pu impacter la situation des femmes. Et cette fois, sous l'impulsion de Violaine Lucas, qui est donc notre nouvelle présidente, on est parti à la rencontre des féministes. Et Violaine Lucas et une des stagiaires de Choisir ont commencé un tour européen, en commençant par l'Europe des pays de l'Est et du Centre, qui sont parfois ceux auxquels on pense le moins et qui pourtant ont un grand intérêt, et sont partis donc à la rencontre de militantes féministes avec l'appui de la diplomatie féministe et des ambassades de France dans les différents pays qui ont été visités pour nous mettre en relation avec les associations féministes, les militantes qui travaillent sur ces questions-là. Et on a visité, alors je ne saurais pas vous dire, mais plus de 20 pays aujourd'hui.
Ouais, c'est ça. Sur 27, donc c'est pas mal quand
donc
même.
C'est quand
sur
27,
c'est pas
oui.
mal. Ouais,
oui, parce que l'Union européenne, c'est 27 pays
oui,
aujourd'hui, sur 54 du continent. Quoi,
non, mais c'est 27, oui. Oui. Mais en fait, vous êtes nombreuses dans l'association Choisir. Et vous êtes toutes parties, chacune, ou vous êtes...
On est presque toutes parties. Alors, à Choisir, il y a différentes... Enfin, tout le monde est bénévole, déjà, premier point. Donc, on fait tous avec la disponibilité qu'on a, hein, en plus de notre travail, de notre famille. Il y en a qui ont plus de disponibilité. Mais on est toutes plus ou moins parties au moins une fois. Voilà.
Super. Alors, je ne vais pas vous demander tout de suite, mais est-ce qu'il y a une différence entre 2008 et aujourd'hui ? Est-ce qu'il y a eu des améliorations ?
Oui. Oui, il y a eu des améliorations, mais il y a aussi des gros reculs.
Heureusement, non, mais...
Oui, heureusement. Enfin, heureusement, oui, il y a des améliorations, mais ce qu'on a pu constater aussi, et c'est pour ça que j'appelle vraiment à aller voter pour faire barrage à l'extrême droite, mais après, je le dirai aussi, pour les droits des femmes.
Pour les droits des femmes,
mais,
oui.
Parce que notre projet figure, donc le meilleur de l'Europe pour les femmes, la clause de l'européenne la plus favorisée, figure dans les programmes de plusieurs listes candidates aux élections européennes, du Parti communiste, de Place publique, le Parti socialiste, de la France insoumise, des Verts, et dans une certaine mesure, en tout cas le principe est plus ou moins repris par le Parti Renaissance. Mais ce qu'on a pu constater, c'est aussi des terribles reculs.
Oui. Absolument, mais ça c'est, enfin, si je peux me permettre, c'est beaucoup plus global. En fait, la difficulté qu'on a, bien sûr que l'Union européenne a beaucoup fait quand même pour faire progresser les droits des femmes et l'égalité. Je veux dire, il y a eu quand même, il y a une stratégie globale, égalité femmes-hommes, ça c'est quand même très important. Il y a effectivement des politiques publiques importantes pour éradiquer les violences, pour atteindre la parité dans les instances de décision, ça c'est fondamental aussi, et pour intégrer aussi l'égalité dans la politique étrangère de l'Union européenne, ça aussi c'est important. Mais de manière globale, la planète ne va pas très bien, vous avez remarqué, elle est à feu et à sang, on a une prolifération des conflits, on en est à une centaine de conflits actuellement à l'heure où on se parle. C'est terrible, ça n'a jamais été aussi important. Et évidemment, à chaque fois qu'il y a des conflits, il y a recul et c'est concomitant. Il y a recul des démocraties.
Des droits aussi.
Des démocraties. Les régimes autoritaires font presque la moitié de la planète aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a presque la moitié de l'humanité qui vit sous des régimes autoritaires. Donc ça, c'est quand même fondamental de l'avoir bien en tête. Et tout cela fait que les droits humains reculent, inévitablement. Plus de conflits, moins de démocratie, c'est moins de droits humains. Et les premiers, c'est les droits des femmes, parce que c'est toujours la variable d'ajustement, en quelque sorte.
Et des personnes LGBT.
Ouais, et des personnes LGBT, absolument. Bien sûr. Mais est-ce qu'on peut dire que depuis... 2008, c'était un début du combat, mais est-ce que les femmes prennent maintenant leur responsabilité? Est-ce qu'il y a plus de femmes aujourd'hui qui sont conscientes, effectivement, qu'elles ont des droits et qu'elles réclament, elles revendiquent beaucoup plus qu'il y a quelques années? Est-ce que je me trompe ou est-ce que...
Moi, je me rappelle qu'en 2008, quand j'ai rejoint Choisir, j'avais 26 ans, 27 ans. Je terminais mes études et parmi mes camarades de fac, j'étais peut-être la seule. Alors après, bon, je ne dis pas que j'étais la seule de ma génération, mais il n'y avait pas beaucoup. Il n'y avait pas beaucoup de personnes de ma génération qui étaient très engagées sur la question des droits des femmes. Aujourd'hui, ce que je vois, c'est que la jeunesse, depuis MeToo, est quand même extrêmement mobilisée sur ces questions-là. Et c'est redevenu un sujet peut-être de premier plan. Ce que je regrette quand même en France, en tout cas, c'est que les politiques s'en emparent encore peu si on compare avec d'autres pays européens. J'ai suivi par exemple de près, parce que je suis aussi d'origine espagnole, les dernières élections législatives en Espagne, la question du droit des femmes était fondamentale. Il n'y avait pas un débat télévisé, et là encore sur les européennes, il n'y a pas un débat télévisé au cours duquel on ne parle pas de la question du droit des femmes. En France, j'ai suivi quelques débats.
Il n'y a pas de débat.
On laisse parler. La seule personne qui a parlé de viol, c'est Marion Maréchal. C'est quand même un problème. Pour montrer du doigt les immigrés.
Après, sur la question des droits des femmes et de l'égalité, il y a eu des mouvements, c'est-à-dire c'est un peu des mouvements pendulaires, hein, c'est-à-dire que quand même il y a eu le MLF, il y a eu le MLAC sur la contraception et sur l'avortement. C'est-à-dire qu'il y a des moments de l'histoire où effectivement on entend parler, il y a une revendication forte des droits des femmes, et puis après les choses vont un peu mieux où on a d'autres préoccupations et ça retombe. C'est-à-dire que c'est ce que disait Beauvoir, il suffit d'une crise pour que les droits des femmes soient... C'est-à-dire que les droits des femmes ne sont jamais acquis, c'est-à-dire qu'il faut une vigilance constante. Mais je voulais juste préciser ça. C'est que... Et puis, dans l'histoire, il y a eu beaucoup de féministes, mais on les a invisibilisées. C'est ça le problème aussi, c'est l'invisibilisation des femmes et de leur lutte, de manière générale, dans tous les domaines.
C'est pour ça que les élections, c'est important aujourd'hui de mettre en avant le droit des femmes.
C'est fondamental. Comme le disait Maria, il est vrai que avec la montée des populismes et des extrémismes, on a intérêt juste à se réveiller et à aller voter, comme vous disiez, parce que clairement, c'est ça qu'il faut retenir comme message, c'est que si les quand les populismes montent et quand les extrêmes et quand l'extrême droite est au pouvoir, les droits des femmes n'existent plus.
Ben
et
non, on a plus
et leur objectif est de faire rentrer les femmes à la maison, taisez-vous, la complémentarité au lieu d'égalité. Ça, on n'en veut pas quand même au XXIe siècle. Voilà.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.
Je peux vous donner des exemples très concrets, parce que nous, en faisant le tour européen, on a pu s'apercevoir très clairement de qu'est-ce qui se passe quand des régimes réactionnaires sont au pouvoir. En Pologne, le droit à l'avortement est quasiment inexistant, et c'est intéressant parce que vous parliez des grandes figures féministes et de l'histoire. Effectivement, dans les années 70, quand les grandes figures féministes françaises et le grand mouvement associatif lutte pour l'avortement, et notamment Choisir, mais parmi d'autres, on aide les femmes françaises à aller avorter, vous savez où ? En Pologne.
En Pologne, oui.
En Pologne. Et aujourd'hui, en Pologne, avec un gouvernement... Il y a eu des élections. Mais le fruit des années du gouvernement réactionnaire et d'extrême droite, c'est une interdiction quasi totale du droit à l'avortement et les femmes qui meurent. En Hongrie, on oblige les femmes à écouter le battement du cœur
du
fœtus avant d'avorter. En Italie, où l'extrême droite est au pouvoir depuis maintenant un certain temps, cette dernière nouvelle, on va faire rentrer les mouvements anti-avortement dans les centres d'avortement. En Italie aussi, sur les droits des personnes LGBT, on a cherché à rayer des actes de naissance la mère non biologique dans les couples lesbiens. Ça veut dire que vous aviez un enfant qui avait deux mamans à l'état civil, et puis on va lui dire « Ah ben non, une de tes mamans, celle qui n'a pas accouché, n'est pas véritablement ta maman, on va la rayer. »
Et en Italie aussi, toujours sur l'IVG, la majorité des gynécologues obstétriciens peuvent refuser de pratiquer les avortements au motif qu'ils sont objecteurs de conscience. Et ça se pratique de plus en plus.
C'est un vrai problème.
Et la Pologne dont vous parliez, on aurait dû... on va signer ensemble la chronique qui est publiée aujourd'hui, que je viens d'écrire, parce que j'y retrouve exactement les mêmes exemples et les mêmes illustrations. En Pologne, effectivement, il y a aussi toutes les Ukrainiennes. Bon, c'est frontalier, hein, c'est le pays qui accueille le plus de réfugiés ukrainiens. Les Ukrainiennes qui ont été violées comme viol arme de guerre, hein, comme partout dans tous les conflits, il ne faut pas l'oublier ça, hein, le viol comme arme de guerre. Elles ne trouvent pas à se faire avorter en Pologne ou en Ukraine, n'en parlons pas, tout est détruit, il n'y a aucune possibilité d'accès, et en Pologne elles ne peuvent pas non plus. Donc c'est vrai que c'est des sujets qui impliquent énormément de conséquences partout pour toutes les femmes.
Oui, et je lisais l'autre jour un article très intéressant qui analysait les différents mouvements d'extrême droite en Europe, qui disait que c'est des mouvements qui sont quand même très hétérogènes. Ils se retrouvent sur un point, c'est la lutte contre les droits des femmes. Et d'ailleurs, c'était très flagrant. Il y a quelques semaines, à Madrid, le parti d'extrême droite Vox a invité tous les dirigeants réactionnaires et d'extrême droite européens. Il y avait Marine Le Pen, il y avait Marion Maréchal, il y avait Milei, le président argentin, qui était venu en guest star. Il y avait Mélanie, etc. Et l'objectif affiché, c'était la lutte contre le wokisme et le féminisme radical. Enfin, c'est vraiment ça qui les rassemble. Donc c'est essentiel de faire barrage à ça, parce que c'est la porte ouverte à tous les reculs.
Et puis j'ai envie de dire qu'au niveau de l'Europe aussi, il y a une difficulté supplémentaire qui se voit un peu moins. Par exemple, la convention dite d'Istanbul, c'est le traité international le plus abouti en matière de lutte contre les violences faites aux femmes, parce qu'elles sont des femmes. Voilà. La Turquie, qui avait été le premier pays à la signer, l'a dénoncée en 2021, mais la Bulgarie, la Lettonie, la Lituanie, la Slovaquie, la République tchèque ont refusé de la ratifier aussi. L'Union européenne l'a ratifiée enfin en tant qu'Union européenne l'année dernière, en 2023, mais il y a encore 6 pays membres de l'Union européenne qui refusent de la ratifier. Ça a des conséquences terribles pour les femmes. Il faut bien le mesurer, ça.
Oui, et il y a des pays qui parlent d'en sortir aussi, la Turquie, mais la Pologne aussi. Et,
absolument.
Et un des arguments qui est avancé, c'est la volonté, par ces pays-là, c'est la volonté de le remplacer par un traité de défense de la famille et de la famille traditionnelle. Et cette question de la famille, donc, c'est une question qu'on a, enfin, moi en particulier, mais toute l'association qu'on a beaucoup étudiée, c'est un des chapitres de notre étude. Et on s'est aperçu qu'il était fondamental en Europe l'Europe de défendre la multiplicité des modèles familiaux, et notamment la famille LGBT, parce que c'est ce qui nous permet de sortir de ce modèle de famille patriarcale qui est le lieu de toutes les oppressions et de toutes les exploitations, et qui est d'ailleurs le cheval de bataille de ces mouvements réactionnaires.
Alors bon, c'est vrai que vous avez encore beaucoup de travail, mesdames, apparemment.
On en a encore un peu, ouais. Il y a une marge de progression possible.
Simplement pour dire quand même que vous avez édité un livre, parce que de tous vos voyages...
Alors tout à fait, on a mis à jour, c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc après le lycée de Gisèle, on s'est dit qu'il fallait mettre à jour cette étude. Et on a travaillé de manière un peu différente, c'est qu'on est d'abord parti sur les routes d'Europe. Et puis après, il a quand même fallu s'asseoir à nos bureaux, faire beaucoup de recherches, et on a publié une nouvelle édition qui reprend ce travail comparatif et qui s'appelle « Le meilleur de l'Europe pour les femmes », qui est paru aux éditions des femmes à nouveau et qui actualise cette analyse comparée. Et on a fait un nouveau colloque également à Nantes en décembre 2023 où Jocelyne était présente et qui a réuni de nombreuses militantes féministes européennes qui se sont unies autour d'une déclaration qu'on appelait la déclaration de Nantes et qui appelle à cette harmonisation par le haut du droit des femmes, à appliquer le meilleur de l'Europe pour les femmes à toutes les européennes.
En 2021, il y avait environ 227 millions de femmes en Europe. C'est-à-dire que c'est quand même énorme, on ne se rend pas compte, parce qu'elles sont vraiment quelquefois invisibilisées, c'est vrai. Donc c'était intéressant, effectivement, d'entendre toutes ces féministes européennes et de connaître un petit peu leur combat. Ça veut dire aussi que Gisèle Halimi, elle était précurseur, visionnaire.
Oui, nous, c'est ce qu'on dit toujours.
On veut quand même la remercier.
Complètement, évidemment. Oui.
Et bon, voilà, donc j'ai envie d'écouter un peu de musique, peut-être pour détendre
mais elle est détendue, l'atmosphère. on connaît la mesure de la charge mentale qu'on a.
C'est sûr. Comme d'habitude, vous avez choisi les titres. Vous en avez choisi chacune. Et moi, j'ai choisi un titre aussi, on verra tout à l'heure.
C'est formidable.
Alors, balance ton quoi ?
J'ai choisi ça.
On gèle.
Parce que c'est la jeune génération.
Oui.
Et parce que nous avons le même combat.
Oui, c'est vrai.
Intergénérationnel.
Oui. Et voilà.
Le texte, il est très bien, je veux dire. C'est féministe. C'est une manière d'approcher le féminisme. Et c'est, en plus, ça parle à tout le monde et ça parle à la jeunesse aussi.
Exactement.
Ça parle mal 2018. Je sais pas ce qu'il faut, mais je suis plus qu'un animal. J'ai vu que le rap est à la mode et qu'il mange mieux quand il est sale. Bah, faudrait peut-être casser les codes. Une fille qui l'ouvre, ce serait normal. Balance ton quoi. Même si tu parles mal des filles, je sais qu'au fond t'as compris. Balance ton quoi. Un jour peut-être ça changera. Balance ton quoi. Donc laisse-moi te chanter. Pas les te faire en Moi je passerai pas à la radio. Parce que mes mots sont pas très beaux. Belle, t'es pas si bête. Pour une fille drôle, t'es pas si laide. Tes parents et ton frère, ça aide. Oh, tu parles de moi. C'est quoi ton problème? J'ai écrit rien que pour toi. Le plus beau des poèmes. Laisse-moi te chanter. Allez te faire en Oui, je serai poli pour la télé. Mais va te faire. Peut-être ça changera. Y'a plus de respect dans la rue. Tu sais très bien quand t'abuses. Balance ton quoi. Balance ton quoi.
Est-ce que c'est bien clair pour tout le monde?
Pardon, moi je reviens juste sur un point qui est pas forcément hyper limpide. C'est juste que quand une fille dit non, j'ai l'impression quand même que souvent ça sous-entend que c'est...
C'est non.
Non. D'accord. Ah ouais. Ah, faut bien... ouais, c'est pas si simple, faut bien choper le truc, hein.
Moi, ce que j'ai compris, en fait...
Pardon, c'est que je te coupe. Ouais, je te coupe. C'est juste parce qu'il y a un deuxième point, c'est que quand une fille dort, on sait pas, du coup, si on peut, si on peut pas. Et du coup, je me dis, peut-être que dans le doute, on peut tenter...
Non, la laisser dormir. Si elle dort, tu la laisses dormir.
Eh oui. Eh ben oui, ok. Mmh. D'accord.
Et pas penser qu'on peut imposer notre désir, vous aviez dit.
Ouais, très bien, Tobias. Après, c'est pas la peine de crier, oui. Mais c'est super.
Pas la peine de crier, parce que comme on est tous là, on entend très bien.
Oui, des petites remarques, toujours.
Quoi? Un problème?
Non, si tu fais toujours des petites remarques, voilà. Et... Tu ferais mieux d'essayer de comprendre les femmes, tu vois, de les écouter.
Écoutez,
vois,
moi, j'écoute pas les femmes, moi, j'écoute pas les femmes.
Semblait.
On voit tous que t'as aucune sensibilité.
Calmez-vous, je pense que ce que vous essayez...
Oh, tais-toi.
Ta gueule.
Pourquoi? Elle intervient au milieu du... Tout hystérique, là. C'est fou de faire ça.
C'est désagréable.
On parlait du désir. Allez. C'est okay. Con, pourquoi on s'embrouille comme ça? C'est elle qui nous coupe, hein.
Coupeuse.
Laisse-moi te chanter, t'allais te faire en... Moi, je passerai pas à la radio, parce que mes mots sont pas très beaux. Laisse-moi te chanter, t'allais te faire en... Moi, je serai poli pour la télé, mais va te faire en... Balance ton quoi. Balance ton quoi. Tu parles mal des filles, je sais qu'au fond t'as compris. Balance ton quoi, un jour peut-être ça changera. Balance ton quoi.
C'était Balance ton quoi d'Angèle, le choix de Jocelyne. Donc, vous êtes toujours sur Aligre FM, l'émission En tant qu'il y a des femmes, 93 points, j'ai oublié de dire. Et je suis Lydia Ketty et je reçois Maria Cornas-Bassoli et Madame Jocelyne Adrien-Meltoul, qui nous présente le meilleur de l'Europe pour les femmes, parce qu'elles sont féministes et elles nous défendent vraiment en Europe et partout. Donc, Maria, donc on disait tout à l'heure que vous avez arpenté l'Europe féministe pour comprendre les luttes quotidiennes et les éventuellement les menaces pesant sur leurs droits. Est-ce que il y a une rencontre qui vous a impressionné ou qui vous a attristé ou qui vous a demandé un effort de sentiment, on va dire?
Alors, je sais que pour les Violaine et Manon notamment, qui sont partis en Pologne et dans les pays de l'Est de l'Europe, il y a eu des moments très durs, parce que de voir la réalité de la condition des femmes et l'épuisement aussi des militantes qui se battent tous les jours avec peu de moyens pour garantir des droits fondamentaux, ça a été très dur. Moi, j'ai fait le voyage en Espagne, donc forcément, c'était un peu
chez
plus...
Vous, donc
un peu chez moi, ouais. Avec Ana Cuesta, qui est une autre militante de Choisir et qui est aussi qui est franco-espagnole. Et on est parties toutes les deux à Madrid. Et c'est vrai que là, au contraire, ça nous a donné beaucoup d'espoir et beaucoup d'énergie.
Bien
parce
sûr.
Que c'est vrai que s'il y a une différence entre 2008 et aujourd'hui, dans notre étude... Alors en 2008, on mettait déjà en avant la loi espagnole de 2004 contre les violences de genre. Mais depuis, l'Espagne a fait encore beaucoup de progrès. Et en 2008, on mettait beaucoup en avant la Suède. Et là, on avait du mal à ne pas mettre l'Espagne dans beaucoup de chapitres. Parce que c'est vrai qu'ils ont fait beaucoup de... preuve d'une grande volonté féministe, quoi. Et c'était très motivant, en fait, de voir comment les féministes, malgré leurs dissensions aussi, parce qu'il y a des... mais avaient réussi à s'unir et à rassembler aussi très largement politiquement. Alors, l'extrême droite prend aussi de la place. Mais pas autant que dans d'autres pays. Et on s'est aperçu aussi à quel point le féminisme avait été un argument pour contrer l'extrême droite. Et...
Oui.
Quand on y est allé, c'était peu de temps après les élections législatives où l'extrême droite était donnée gagnante. Et on voyait déjà une coalition droite-extrême droite comme on voit arriver partout en Europe, hein, je veux le dire, enfin dans beaucoup de pays d'Europe. Et là, la gauche socialiste et la gauche radicale ont vraiment centré leur programme et leur démarche politique autour de la question du droit des femmes et des personnes LGBT. Et ça a été un moyen de faire barrage à l'extrême droite. Et les dernières élections en Pologne, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que c'est les féministes qui se sont mobilisées et qui ont réussi à contrer les réactionnaires.
C'est pour ça que ce que vous dites, c'est très important de montrer que c'est la volonté politique qui fait tout. Qui fait toute la différence. Vous parliez de la Suède, qu'on donnait beaucoup en exemple en 2008, jusqu'à il n'y a pas longtemps. Malheureusement, la Suède, par exemple, qui a initié la diplomatie féministe, dont j'aimerais parler tout à l'heure, l'a abandonnée fin 2022, en ayant une coalition avec l'extrême droite. Leur premier travail, le gouvernement a été nommé le matin, le soir, ils avaient abandonné la notion de diplomatie féministe. Donc, c'est des vrais enjeux. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement les féministes qui, entre elles, trouvent qu'il faudrait que ce soit mieux.
C'est des décisions politiques.
C'est que ça a un impact sociétal, de manière générale, d'inclure ou non l'égalité femmes-hommes ou d'inclure les droits des femmes dans une politique, dans une approche idéologique et politique générale.
Allègre FM 93.1.
Nous, ce qui nous a frappé en Espagne, par exemple, c'est que l'Espagne est sortie quand même de la dictature il n'y a pas si longtemps que ça, à la fin des années 70, et a dû reconstruire une démocratie. Et l'impression qu'on a, c'est que cette démocratie qui est encore en construction, elle prend complètement en compte les femmes. Il n'y a pas de démocratie sans droit des femmes, chose qu'on a un peu tendance à oublier dans nos vieilles démocraties, puisqu'elles se sont construites en partie sans les femmes. Et ça, je pense que c'est très important de l'avoir en tête, c'est que les femmes, c'est une question, le droit des femmes, c'est une question démocratique fondamentale. Vous disiez le nombre de femmes tout à l'heure dans l'Union européenne, c'est plus de la moitié de la population. On ne peut pas avoir une démocratie où la moitié des femmes, la moitié de la population risque le viol, n'a pas accès à l'autodétermination sur son propre corps. C'est vraiment une question de démocratie.
Et n'est pas à part égale. Participantes de la décision, des instances de décision. C'est ça.
Parce qu'elles n'ont pas des postes qui permettent.
C'est ça le sujet aussi.
Complètement.
Donc, l'une des revendications premières, c'est le rapport au corps, bien entendu. C'est les femmes veulent choisir de donner la vie ou pas. C'est-à-dire, c'est fondamental, en fait.
Choisir, c'est un des combats historiques, puisque choisir, le nom même de l'association, choisir, c'est en relation avec ça, c'est le fait de choisir sa vie, et on ne choisit pas sa vie si on ne choisit pas sa maternité. Et l'association s'est créée dans le contexte du manifeste des 343 femmes qui avaient déclaré au Nouvel Observateur avoir avorté alors que c'était illégal et qu'elles encouraient des sanctions pénales. Parmi les signataires, il y avait des femmes célèbres, mais aussi des femmes qui n'étaient pas célèbres et qui ont été inquiétées par les autorités, et choisir s'est construit pour défendre ces femmes-là. Oui. Donc c'est vraiment à l'origine de notre association.
De l'association.
Et c'est le premier chapitre de notre étude où malheureusement on constate des reculs, non seulement en Pologne mais aussi en Hongrie, en Italie. On voit que Malte n'a toujours pas fait le pas. On a pu quand même avoir la joie de voir en Irlande la situation qui a évolué pour les femmes. Et le droit à l'avortement et la dépénalisation
c'était
de l'avortement,
c'était une grande victoire quand même.
Une grande victoire, tout à fait. Mais ça reste un des combats essentiels. Et Jocelyne me mentionnait tout à l'heure les Ukrainiennes qui arrivent en Pologne. Mmh. C'est des situations dramatiques et qui montrent que l'Europe n'est pas à la hauteur.
Absolument.
Enfin, clairement, on a des victimes de guerre, des victimes de viols de guerre qui arrivent et l'Europe n'est pas en mesure de leur procurer ce qui devrait être un droit fondamental. Donc nous, on est vraiment pour l'instruction. C'est interdit. En Pologne, c'est interdit. Donc, pratiquement interdit. Donc, voilà. Les femmes meurent alors qu'elles auraient besoin d'un avortement médical parce qu'aucun médecin ne veut prendre le risque. Ça, c'est la situation en Pologne. Et donc, nous, on milite évidemment pour l'inscription du droit à l'avortement dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
Absolument. Puis, c'est tant mieux en France. Notre président de la République a dit qu'il voulait l'inscrire. N'est-ce pas ? Je crois qu'il l'a même dit à la présidente de choisir.
Tout à fait.
Donc,
on compte sur lui.
On compte sur lui, vraiment.
Et le Conseil à l'égalité, est-ce que vous défendez également la contraception, l'IVG pour les femmes ? Comment...
Oui, évidemment, on est le Haut Conseil à l'égalité. Donc, on est effectivement sur les valeurs basiques, j'allais dire, des droits des femmes. C'est évident que toutes ces questions du droit... Notre corps nous appartient, disait-on au MLF. Et c'est toujours ça qu'on revendique. C'est-à-dire que c'est que, effectivement, on doit choisir ce qui nous concerne. Et absolument, pas laisser choisir par les autres. C'est la même, c'est vrai aussi pour la manière de s'habiller ou de ne pas s'habiller. C'est la même chose pour la manière de penser d'être, ou de ne pas penser. Ouais, ouais. Voilà, c'est d'être tout ça. C'est comme ça que il y a. Enfin, c'est toute cette histoire du droit de vote officiel et puis du droit de disposer de notre propre histoire.
Il y a quand même une révolution, c'est du XXe siècle, c'est la dissociation de la vie sexuelle et de la procréation. C'est-à-dire que les femmes ont le droit d'avoir une... Elles ne sont pas obligées de procréer dès qu'elles ont...
Ah bah heureusement que la vie serait triste, sinon...
Il y a une phrase que j'ai détestée depuis que je suis adolescente, c'est « tomber enceinte ». J'ai trouvé
oui,
cette phrase
absolument, oui,
épouvantable. Oui.
Non, mais c'est la liberté des libertés, comme disait Gisèle. Il n'y a pas de contrôle sur sa vie si on ne peut pas contrôler sa maternité, parce que ça va avoir un lien sur les choix professionnels, sur toute la vie. C'est vraiment... Et le fait de ne pas pouvoir avorter, c'est une violence.
Bien sûr.
Je pense qu'il faut vraiment avoir
En 1960, c'est les États-Unis et la Grande-Bretagne qui sont les premiers pays à commercialiser la contraception. Est-ce que je suis bonne dans l'information?
Oui, c'était effectivement, c'est pas chez nous que ça a commencé. mais nous c'est en 75 avec la loi Veil et c'est vrai que ça a été une avancée historique.
Oui.
C'est vrai de dissocier
des
comme vous
60,
disiez tout à l'heure, ouais. Voilà que pouvoir dissocier en effet.
En revanche, la contraception en
de
France...
De dissocier, pardon, le plaisir de la maternité.
Oui,
voilà.
Exactement. C'est un plaisir, malgré tout.
Oui, c'en est un autre.
C'est un autre plaisir, oui, absolument. Mais ça a été, en France, ça a été dans le cadre d'une politique de régulation de la natalité. Alors, est-ce que c'est... Ça m'a un petit peu... Je me suis posé la question, est-ce que vraiment, il a fallu que le gouvernement réfléchisse au fait de... Non. Bon.
Je suis pas sûre que.
Enfin, écoutez, non. Enfin,
moi, j'ai regardé ça, j'ai lu ça, mais j'oublie ma question.
Citez vos sources, madame.
Ah non, je n'ai pas mes sources.
Non, mais par contre, c'est vrai que ce que Gisèle Halimi a mis en évidence à l'occasion du procès de Bobigny, notamment, c'est que c'est l'énorme hypocrisie des autorités à l'époque où l'avortement était interdit et où en même temps dans les colonies on stérilisait qu'il y avait donc une bonne natalité et une mauvaise natalité, donc une approche raciste de la natalité.
Absolument. Et économique aussi.
Économique. Oui,
mais on en est toujours là quand même. Il n'y a pas si longtemps, il m'a semblé entendre réarmement démographique. Les bras m'en sont tombés.
Ouais. Ouais. Alors, quand même une bonne nouvelle. Alors, quel est le meilleur de l'Europe en ce qui concerne la contraception pour les femmes?
Alors, on a choisi la France pour la contraception. Je vais vous détailler pourquoi. On a choisi la France pour l'accès à la contraception libre et gratuit, sous plusieurs formes, pour la gratuité, pour l'accès à la contraception pour les mineurs, essentiellement. Ouais. Voilà.
Bon, très bien. Mais en fait, certains pays d'Europe légalisent l'avortement, par exemple aussi, mais proposent des délais et des lois différentes. C'est-à-dire qu'on peut effectivement avoir droit à l'IVG, mais il y a des longueurs administratives.
Sur l'IVG, il y a plusieurs enjeux importants. La question des délais, je la trouve très intéressante, parce que donc, nous, on a mis en avant, sauf erreur, la Suède. Mais la question des délais... Chaque pays a des délais différents. Ça montre un peu l'arbitraire de ces délais-là. Et puis surtout, je trouve que ça envoie un mauvais message. C'est que c'est l'idée que les femmes vont abuser de ces délais-là, alors qu'en réalité, une femme qui veut avorter, elle veut le faire le plus vite possible. Et il y a des pays où il n'y a pas de délai, notamment le Canada, si je ne me trompe pas. C'est pas pour autant que les femmes avortent à 8 mois et demi. Les femmes avortent le plus tôt possible. Et le plus important, c'est qu'il y a un service public. Et ça, c'est un des points que je mentionnais quand même, parce que c'est aussi quelque chose dont on s'est aperçu au cours de notre tour européen, c'est que les droits des femmes sont forts quand le service public est fort. Et il faut un service public de la santé qui garantit un accès rapide à l'avortement et la question des délais, elle est assez accessoire finalement.
Ça va avec l'ancrage de la démocratie ou pas? C'est-à-dire c'est sur un socle de loi qu'on s'appuie et c'est un rempart effectivement aussi au recul des droits de manière générale, des droits fondamentaux et tout ça est lié. C'est-à-dire que effectivement, si on a un service public fort, on a aussi une démocratie qui va avec, c'est-à-dire qu'un système qui permet qu'on s'appuie sur le droit et sur les droits des gens.
Tout à fait, un système qui évite qu'on exploite le travail gratuit des femmes également, ouais. Puisque un service public de la petite enfance, ça vient pallier aussi la question du travail gratuit des femmes à la maison. Enfin voilà, les emplois précaires, les premières victimes des emplois précaires, c'est les femmes. Enfin voilà, les premières victimes d'un service public qui se délite, c'est toujours les femmes.
C'est aussi les femmes. Il y a comment dirais-je? Il y a des pays où effectivement les femmes elles font une demande d'IVG, elles sont acceptées. J'ai vu le Danemark par exemple, les mineurs n'ont pas besoin de consentement parental.
Effectivement.
Je trouve effectivement la Suède autorise, par exemple, la Finlande et la Suède n'autorisent pas le recours à la clause de conscience pour le médecin.
Ça, je pense que c'est un élément assez intéressant dans le service public. C'est-à-dire que Jocelyne parlait tout à l'heure de l'Italie. L'Italie, le droit à l'avortement, il existe dans les textes depuis les années 70. A priori, sur le papier, il n'y a pas de problème. En réalité, il y a des régions où plus de 80% des médecins sont objecteurs de conscience sur l'IVG et refusent de le pratiquer. Donc, dans les faits, les femmes n'ont pas accès à l'avortement.
En réalité,
ouais. La Suède, là-dessus, je trouve que c'est assez intéressant. Enfin, ces pays qui interdisent la clause de conscience dans les hôpitaux publics, c'est de dire, à partir du moment où j'exerce cette profession, où je suis gynécologue obstétricien, ça fait partie du job, quoi.
Jocelyne, la France vient d'inscrire l'interruption volontaire de grossesse dans sa constitution. Première mondiale ?
Ah oui, absolument. C'est une première mondiale. Et c'était un moment, ça a été scellé le 8 mars 2024. Et c'est vrai que c'était un moment fort pour les Françaises et les Français. Moi, j'étais particulièrement fière d'être française. Je ne le suis pas toujours ces derniers temps et de manière générale. Et c'était un exemple aussi pour les Européennes et pour les femmes du monde entier. C'est-à-dire qu'on n'imagine pas toujours combien un geste fort comme celui-là, outre qu'il est concrètement, enfin qu'il est suivi des faits concrètement, a un impact aussi sur le moral des troupes, y compris pour les Iraniennes, pour les Afghanes, pour les Congolaises qui sont violées depuis 30 ans, viol d'armes de guerre sans que personne n'en ait rien à faire. Donc c'est très important, c'est-à-dire que là, on a été effectivement un modèle, on est un modèle quand on fait avancer les choses comme ça. Donc ça, c'est très important. Et là, je ne remercierai jamais assez la France de faire ça. Et donc, il est important que ce droit se traduise aussi dans la Charte fondamentale européenne, des droits au niveau de l'Union européenne. Je pense que ça aussi, c'est important. Ça, c'est le prochain, à mon avis, c'est la prochaine étape qu'il faut réussir.
Ouais. D'autres pays,
c'est très important.
Bon, peut-être, oui.
Voilà. Je ne veux pas aller au-devant de vos questions, mais je veux dire, ça fait partie aussi des éléments d'une diplomatie féministe. Mais on en parlera peut-être tout à l'heure.
Non, allez-y, parlons-en. Après, je voulais parler d'économie, mais parlons-en. Le temps passe si vite.
Sur la diplomatie féministe, en fait, moi, je trouve que c'est quelque chose d'important. Alors, déjà, parce que au Conseil à l'égalité, nous avons rendu, la commission internationale que je co-préside a rendu un rapport sur une diplomatie féministe qui serait ancrée dans une réalité. C'est-à-dire, la diplomatie féministe, c'est la politique, c'est comment mettre au cœur de la politique extérieure d'un pays, l'égalité femmes-hommes au cœur de ces politiques, de manière générale. Et aussi la solidarité. La solidarité avec toutes les femmes dont les droits sont bafoués, quel que soit le pays où elles vivent. Et ça, c'est très important. Ça a du sens si on l'incarne, si on l'habite, si on le nourrit, ce concept. Pour l'instant, c'est un concept assez récent. Et alors, c'est pour ça que je disais, c'est la Suède, en 2014, qui l'a initié, ça. Qui a dit, pour en finir, c'était Margot Wallström, la ministre des Affaires étrangères, qui a dit, pour en finir avec la subordination mondiale des femmes.
Des femmes.
Voilà, c'était ça l'idée. Et c'est un concept génial, à peu près aussi génial que choisir la cause des femmes. Voilà, deux concepts qu'il faut porter très loin.
Donc nous allons écouter le choix de Maria, Anne Sylvestre, qui chante Frangine.
Ce fut à l'école déjà qu'on fit de nous des concurrentes. On se regardait chien et chat, on détestait les redoublantes. Souffre douleur ou bien faillotte, on se poussait toujours plus haut. On s'arrachait les bonnes notes, on pleurait devant le tableau. On aurait pu rester frangine. Ça nous aurait gagné du temps, au coude à coude j'imagine qu'il n'aurait pas fallu longtemps pour qu'on soit toutes aussi bonnes, malgré les pionnes et les parents. Ensuite en face des garçons commença la grande offensive. On se fabriquait des façons, des rendez-vous sur l'autre rive. Et grande brinque ou blanche neige, c'était à qui amènerait tous les boutonneux du collège à l'accompagner sur le quai. On aurait pu rester frangine. Ça nous aurait gagné du temps, bras dessus dessous j'imagine qu'on aurait de ces débutants avant que la vie les assomme. Des hommes, pas des enfants. Un peu plus tard, c'est la beauté qu'on nous érige en barrière. On se retrouvait insultés si on n'était pas la première. Nos amitiés faisaient sourire, fallait nous crêper le chignon. Et tout ce qu'on pouvait se dire n'était que fadaise ou chiffon. On aurait pu rester. Ça nous aurait gagné du temps, main sur l'épaule, j'imagine qu'on aurait pu, se regardant, voir qu'on était toutes assez belles, et même celles qui n'ont pas le temps. C'est tout pareil dans nos métiers, on nous oppose et on nous monte en épingle pour mieux montrer qu'on se trouve en dehors du compte. Pour peu qu'on dépasse la tête, on est toujours une exception, chacune sur notre planète, ce qu'on a pu tourner en rond. Si on se retrouvait frangine, on n'aurait pas perdu son temps, unissant nos voix j'imagine qu'on en dirait 20 fois autant, et qu'on ferait changer les choses, et je suppose aussi les gens, et qu'on ferait changer les choses. Allez, on ose, il est grand temps.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.
Nous venons d'écouter donc Anne Sylvestre qui chantait Frangine. Vous êtes toujours sur Aligre FM 93.1, l'émission En tant qu'il y aura des femmes. Je reçois Madame Maria Cornaz Basseli et Madame Jocelyne Adrien-Métaud et nous parlons de l'Europe, le meilleur de l'Europe pour les femmes. Et parlons d'économie des femmes parce que ça c'est important aussi, c'est le socle de l'émancipation et de la liberté. L'économie financière pour une femme, elle ne travaille pas, elle est à la maison, elle a un salaire plus bas que les hommes.
Allons, soyons sérieuses. Évidemment que l'indépendance, excusez-moi, évidemment que l'autonomie économique et l'indépendance financière, parce qu'il ne faut pas confondre les deux, ce n'est pas tout à fait la même chose, c'est essentiel aussi. Il n'y a pas d'égalité s'il n'y a pas d'indépendance économique,
bien sûr,
c'est pas compliqué. Enfin, je le résume un peu.
Tout à fait. Oui, non, nous, l'indépendance économique, on l'a abordée sous plusieurs. Enfin, la question financière et de l'économie des femmes, elle traverse tous nos thèmes, parce qu'il n'y a pas d'indépendance économique s'il n'y a pas d'avortement. Premier point. Il n'y a pas d'indépendance économique si les femmes sont exploitées dans leur famille. Donc le droit de la famille est aussi essentiel. On sait que aujourd'hui, malheureusement, statistiquement, le mariage et la vie de famille appauvrit les femmes. Pourquoi ? Parce qu'il y a tout un travail gratuit qui produit, ça, Christine Delphi l'avait démontré il y a déjà bien longtemps, mais il y a tout un travail gratuit qui produit de la richesse et qui n'est pas rémunérée, qui est effectuée par les femmes. Après, il y a la question de la garde des enfants. Enfin, pour avoir une indépendance économique, il faut un congé paternité important pour que les hommes prennent leurs responsabilités et que la maternité ou même le risque de maternité ne pèsent pas financièrement et dans leur carrière pour les femmes. Il y a la question de la garde des enfants et de l'accueil. Là, nous, par exemple, on a mis en avant le Danemark avec un droit effectif à une place d'accueil pour les jeunes enfants. Et puis, après, évidemment, il y a toutes les questions de retraite, de salaire, etc., qui ont été développées par Anna Cuesta et Violaine Lucas dans notre ouvrage. Je vous invite à lire.
Voilà. Absolument. Nous allons dire
tout. Les violences aussi, c'est un point important à rappeler. Et par exemple, la loi espagnole est intéressante à cet égard parce qu'elle va donner des droits financiers aux femmes victimes de violences et notamment des congés rémunérés. Les violences appauvrissent les femmes aussi.
Bien sûr, bien sûr. Il y a beaucoup de choses à dire. Le temps passe tellement vite, je suis absolument désolée. Chaucine, je voudrais qu'on parle aussi de femmes du monde et réciproquement.
Ah oui, de mon association, oui. Juste, je voulais ajouter sur la diplomatie féministe quand même que je suis persuadée, et je crois que je vais écrire quelque chose là-dessus parce qu'on ne l'entend pas bien, que cette diplomatie féministe peut vraiment contrer la brutalisation du monde actuel et que ça peut être une arme, puisqu'on adore parler d'armement et d'armes, une arme de paix. Vraiment. Oui. Voilà, ça c'est mon nouveau slogan.
C'est mon nouveau slogan.
Ouais, Alors. C'est lié aussi à mon activité dans Femmes du Monde et réciproquement. Donc c'est une petite ONG, une jeune ONG, je vais dire, qui travaille sur les droits des femmes à l'international et où on parle de femmes et géopolitique, droits des femmes, état des droits des femmes dans le monde, rien que ça. C'est un vrai sujet et c'est passionnant en même temps. Et j'y fais un podcast de femmes engagées dans le monde. J'ai actuellement une trentaine d'entretiens qui ont été faits avec des femmes colombiennes, mexicaines, congolaises, estoniennes, russes, etc. Enfin, de tous les continents, japonaises, etc. Et chacune dans son pays ou dans son parcours s'engage pour le collectif. Et ça, je trouve ça extraordinaire. C'est-à-dire que quand même, quand on voit des gens, et notamment des femmes qui sont à la fois des femmes engagées dans leur quotidien pour qu'elles se tiennent debout, quelle que soit leur situation de danger, de menace, de difficulté dans leur pays, et qui ont toujours le sens de l'intérêt collectif. Ça, on ne l'a pas assez, de manière générale. Ouais.
Mais il y en a, c'est ça qui est souligné. Donc on peut visionner ces podcasts.
Alors, c'est des audios, donc d'une trentaine de minutes. Oui, oui, absolument, on peut. Je ne sais pas vous dire si c'est Femmes du Monde, HTTP, je ne sais pas quoi, HTTPS, et c'est Femmes du Monde et réciproquement tout attaché, ou Femmes engagées, voilà.
Donc les prochaines élections européennes auront lieu le 6 et le 9.
Non, du 6 au 9. Du
6 et 9 juin. 2024, qu'est-ce que vous pourriez dire aux femmes et aux hommes pour qu'ils aillent voter? Comment les convaincre? Quels sont les mots?
Ce que je disais tout à l'heure, il faut voter pour les droits des femmes et contre les réactionnaires. Donc moi, je les invite à voter, évidemment, pour les listes qui reprennent notre projet. Je les ai citées tout à l'heure, il y a le choix.
Bien sûr.
Alors, moi, je serais plus large. Je dirais qu'il faut voter de toute façon parce que ne pas voter, c'est engager notre avenir et à coup sûr dans un mauvais sens.
Oui. Voilà. L'avenir de nos enfants, absolument.
Vous savez, le droit de vote, c'est une longue histoire aussi, ça. Et on ne l'a pas obtenu comme ça. Souvenez-vous que les Français ne l'ont eu qu'en 1946. Hein. Les Néo-Zélandaises l'ont eu en 1893 et les Saoudiennes en 2011.
Ouais,
donc n'oublions pas que c'est un droit durement acquis et il est un devoir aussi. Voilà.
Et dès 18 ans, on peut voter dans la mesure où on est inscrit sur la liste électorale communale. Alors, qu'est-ce que vous auriez envie de me dire alors que le temps passe si vite, malheureusement? On ne pourra pas écouter le choix de Maria, qui était Anne Sylvestre,
Oh, quel dommage.
Oui, Frangine, mais oui, parce que voilà.
Frangine, oui.
Nous sommes pris au dépourvu. Je voulais simplement dire que le livre Le meilleur de l'Europe pour les femmes a été édité par l'édition des femmes d'Antoinette Fuchs, c'est ça ?
Oui, tout à fait. Et vous pouvez retrouver aussi sur notre page Instagram les petites vidéos que nous avons tournées au cours du tour européen. Avec toutes les militantes féministes que nous avons rencontrées. Ça vous donnera aussi un instantané d'Europe.
Et alors moi, puisqu'on fait de la pub, je fais aussi de la pub. Je fais de la pub pour l'alerte égalité que nous avons fait paraître sur les européennes au Haut Conseil à l'égalité, que vous trouvez sur le site du Haut Conseil à l'égalité. Et puis pour ma chronique, dont la directrice de rédaction de 50-50 magazine, dans lequel j'écris, qui est un média féministe en ligne, m'a dit tout à l'heure que publié aujourd'hui, donc voilà, c'est une chronique sur les européennes, donc dans 50-50 magazines sur internet. Voilà.
Parfait. Alors, Grand Corps Malade, Mesdames, qui est un hommage fantastique pour les femmes. Je vous remercie infiniment d'avoir accepté mon invitation. Beaucoup trop de choses à dire. Vous avez tous compris qu'il fallait et voter et aller sur internet pour voir tout ce travail. Je voudrais remercier nos techniciens, Célian Vianetz et Enrico Mastrogiovanni. Et merci aux auditeurs, évidemment. Et,
et aux auditrices aussi.
Et aux auditrices aussi, bien entendu. Au revoir. Merci infiniment.
Merci à vous.
Merci.
Au revoir.
Et surtout, allez voter.
Veuillez accepter, mesdames, ces quelques mots comme un hommage à votre gente que j'admire qui crée en chaque homme un orage. Au cinéma ou dans la vie, vous êtes les plus beaux personnages. Et sans le vouloir, vous tenez nos cœurs et nos pensées en otage. Veuillez accepter, mesdames, cette déclaration comme une tentative honnête de réparation. Face au profond machisme de nos coutumes, de nos cultures, dans le grand livre des humains, place au chapitre de la rupture. Vous êtes infiniment plus subtile, plus élégante et plus classe que la gente masculine qui parle fort prend toute la place. Et si j'apprécie des deux yeux quand tu balances ton corps, j'applaudis aussi des deux mains quand tu balances ton porc. Derrière chaque homme important se cache une femme qui l'inspire. Derrière chaque grand être humain précède une mère qui respire. La femme est l'avenir de l'homme, écrivait le poète. Eh bien l'avenir s'est installé, et depuis belle lurette. Vous êtes nos muses, nos influences, notre motivation et nos vices. Vous êtes Simone Veil, Marie Curie, Rosa Parks, Angela Davis. Vous êtes nos mères, vous êtes nos sœurs, vous êtes caissières, vous êtes docteurs. Vous êtes nos filles et puis nos femmes, nous on vacille pour votre flamme. Comment ne pas être en admiration et sans commune mesure pour celles qui portent et fabriquent pendant 9 mois notre futur. Pour celles qui cumulent plusieurs emplois et ce, sans sourciller. Celui qu'elles ont dans la journée est le plus grand, mère au foyer. Veuillez accepter, mesdames, cette réelle admiration de votre force, votre courage et votre détermination. Veuillez accepter, mesdames, mon aimable faiblesse face à votre fragilité, votre empathie, votre tendresse. Veuillez accepter, mesdames, cette petite intro car l'avenir appartient à celles qu'on aime trop. Pour ne pas être taxé de premier degré d'anthologie, veuillez accepter, mesdames, cette délicate démagogie. Nos influences, notre motivation et nos vices. Vous êtes Simone Veil, Marie Curie, Rosa Parks, Angela Davis. Vous êtes nos mères, vous êtes nos sœurs, vous êtes caissières, vous êtes docteurs. Vous êtes nos filles et puis nos femmes. Nous, on vacille pour votre flamme.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.